Bonjour, bon après-midi à tous. Nous sommes là pour parler d'Uchronie sous un titre qui n'est pas aussi scientifique. Et si notre monde était différent, histoire alternative. Autour de moi, il y a Hugo Bellagamba, là, dont c'est une thématique de prédilection, hein, l'Uchronie. Prix Rony Aîné, prix européen utopial des Pays de la Loire pour Tancrède. Et il a aussi écrit La Cité du Soleil et autres récits héliotropes. Je crois que c'est le bouquin qui est là. Alain Grousset, grand auteur jeunesse, par la taille et par l'ampleur de la production. 40 romans, quelque chose comme ça, plus. Ça évolue chaque année, évidemment. Hein. Les statistiques doivent être anciennes. Et il s'est introduit dans le thème de l'Uchronie avec un bouquin qui s'appelle « La guerre de 14 n'a pas eu lieu » chez Flammarion. Mais il a aussi dirigé, d'une manière un peu éphémère, une collection, celle plutôt la collection qui fut éphémère plutôt que ta direction, une collection sur l'Uchronie chez Flammarion aussi. À ma droite, Stéphane Pribilski, donc le château de millions d'années. Et là, on est dans un monde où Hitler est toujours là, où il y a la guerre, mais sur un chantier archéologique en Irak, et il se passe des choses qui vont peut-être changer le cours du monde. Et puis, The Big Chief, Christopher Priest, c'est lui qui a écrit cet extraordinaire début de roman « J'avais atteint l'âge de 1000 kilomètres » qui commence le monde inverti, une phrase que tous les amateurs de science-fiction se doivent de connaître par cœur. Et depuis ce roman-là, il y en a eu plusieurs autres. Dans notre genre, l'Uchronie, une Uchronie un peu particulière, on le verra tout à l'heure. La séparation. Voilà. La séparation, qui est un roman d'une histoire peut-être alternative. En fait, on ne le sait pas très 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 bien. Le monde dans lequel ça se passe n'est plus en guerre en 1941, parce que Hess et Churchill ont scellé une certaine paix, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? On le verra tout à l'heure. Alors, vous savez, l'Uchronie, c'est « et si ». Il y a eu des tas de romans à ce sujet, du genre « et si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo ». C'est Camille, un humoriste français qui avait écrit ça dès les années 20 ou 30. On connaît Philippe II gagne contre Élisabeth Ier au XVIe siècle. Et c'est Pavane de Keith Roberts avec une Angleterre dominée par les cathos. Et bah, celui qui est peut-être le plus connu, c'est Le Maître du Haut-Château. De Philippe K. Dick, où les Japon et l'Allemagne ont gagné la guerre et où les États-Unis sont occupés par les Japonais. Alors, les Uchronies, en anglais, ça ne s'appelle pas Uchronies, mais ça s'appelle Alternate Story. Attention, ce ne sont pas des histoires de voyageurs dans le temps. Ça, c'est la patrouille du temps, c'est tout à fait autre chose. Ici, c'est bien des histoires qu'on raconte dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Et alors, j'ai commencé par Hugo Bellagamba. Ce qui vous fascine dans l'Uchronie, qui est une partie principale de votre travail, c'est quoi? C'est le jeu?
Alors, merci. D'abord, bonjour à tous. Oui, alors effectivement, l'Uchronie, c'est un jeu sur l'histoire, mais des jeux sur l'histoire, il y en a plein. D'une certaine manière, tout roman historique est un jeu sur l'histoire. Et on peut prendre Alexandre Dumas, qui jouait déjà avec l'histoire. Donc c'est pas uniquement jouer avec l'histoire pour moi l'Uchronie, c'est montrer, ou en tout cas par la fiction, trouver des moyens de faire parler l'histoire différemment de ce qu'elle nous a déjà dit. Et en changeant la liste des événements, en changeant l'orientation qu'ont pris les événements, on peut en réalité pas du tout faire croire ou essayer de laisser croire que les choses auraient véritablement pu se passer différemment. Aucun, je pense, ou rarissime sont les auteurs d'Uchronie à croire véritablement que l'histoire aurait véritablement pu être différente. Mais c'est plutôt un jeu intellectuel sur ce que nous dit l'histoire de nous-mêmes. Et ce que nous dit l'histoire de nous-mêmes, on peut y accéder soit en lisant des essais historiques, soit en jonglant, en jouant avec les événements. Et je pense que la base de l'Uchronie, c'était ça. Et pour ajouter un mot aussi, puisque vous avez fait une jolie présentation de l'Uchronie, juste pour ajouter une référence, histoire que la table ronde puisse après partir sur des choses beaucoup plus contemporaines, vous avez un auteur français aussi qui s'appelle Charles Renouvier, qui a écrit l'Uchronie au XIXe siècle, en 1876 à peu près, enfin écrit en 70 et puis après reprise en 76, qui racontait un monde où l'histoire de l'Empire romain et de la christianisation de l'Empire romain était complètement différente. Et cette toute première Uchronie, c'est la création du néologisme ou chronos, le temps qui n'a pas existé, était aussi une œuvre politique. Charles Renouvier était un philosophe français républicain et il écrivait l'Uchronie justement pour présenter les avantages du régime républicain. Et cette idée que l'Uchronie est aussi un regard politique sur l'histoire, je pense que ça fait partie aussi de notre sujet. Et c'est vrai que chaque fois qu'on pense l'histoire, d'une certaine manière, on pense l'histoire de façon politique. Alors pas forcément de façon politique au sens premier du terme, favorable à la République, favorable à la monarchie ou des choses comme ça, mais au sens de que nous dit l'histoire sur ce qu'est une société humaine en réalité. Voilà, donc ça c'était peut-être un petit peu un point de départ, donc un jeu, mais plus un jeu vraiment sur les représentations que l'on a de l'histoire. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et il y a encore un autre pan à déterminer, c'est l'Uchronie personnelle. Je crois qu'elle intéresse beaucoup de gens. Un site internet comme Les Copains d'Avant est un site absolument uchronique parce que et fournisseur de divorce grand V, parce que tout le monde se dit oui, ma petite copine, je suis tombé follement amoureux en CM2, si je m'étais marié avec elle, qu'elle arrêtait ma vie. Donc ça intéresse aussi beaucoup de gens, cet aspect de dire, bon voilà, est-ce que je peux revenir en arrière, quelle branche j'aurais pu prendre, une branche bien sûr différente, et est-ce que ça aurait été mieux ou pas.
Donc une relecture de l'histoire et aussi une relecture de sa propre histoire.
Oui, voilà. Bon, c'est vrai que les uchronies sont des uchronies optimistes, puisque de toute façon, elles racontent souvent des mondes qui sont bien plus pessimistes que le nôtre. Ce qui nous fait penser en disant « Ouf, on a échappé à ce genre d'histoire, enfin de ce genre de société ». Donc voilà, donc pour les auteurs, c'est plus intéressant de montrer une société où ça va mal, parce que donc les rebondissements sont mieux qu'une utopie. Donc l'Uchronie est intéressante de ce côté-là. Et en même temps, elle montre au lecteur que voilà, vous avez échappé à ça.
Stéphane, à quoi on échappe dans votre livre ?
C'est bien la question, est-ce qu'on a échappé ou pas à quelque chose dans le château des millions d'années ? Parce que la grande question qui est posée, c'est est-ce que le monde tel qu'on le connaît est bien celui qu'on nous décrit ? Est-ce que ce sont bien les personnes qu'on désigne comme les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui l'ont gagné et que sont devenus les vaincus et certains vaincus qui ont disparu ou qui ont échappé pour les uns à la justice et pour les autres au jugement de l'histoire. Donc l'Uchronie dans mon roman, c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire se poser la question de savoir est-ce que la réalité telle qu'on nous la dépeint et telle qu'on la connaît aujourd'hui est bien celle que l'on pense. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas eu divergence à un moment donné, donc là, en l'occurrence, à partir de 1939, par rapport à une rencontre du troisième type qui se serait déroulée et par rapport donc à un affrontement qui opposait donc les nazis aux puissances occidentales pour l'acquisition d'un savoir mystérieux. Voilà.
Mais vous dites que c'est une histoire qui aurait pu exister, dont on ne sait pas très bien si elle n'a pas existé. Ça rend l'Uchronie assez parano, ça.
Complètement. On est en pleine conspiration et théorie du complot, en fait. Donc, pour pas trop en dire sur la suite de la tétralogie, parce que c'est donc un premier roman, ça sera l'idée d'essayer de jouer sur les zones d'ombre de la Seconde Guerre mondiale, notamment par exemple avec des personnages historiques comme Rudolf Hess, pour ne penser qu'à lui, et par rapport au mystère qui entoure son déplacement en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, jouer sur ces zones de mystère pour ensuite déborder sur la période de la guerre froide et donner une vision, je dirais, un corps peut-être nouveau et assez particulier à l'univers du complot mondial ou supposé comme tel.
Chris, votre uchronie à vous dans la séparation, c'est aussi une uchronie complètement parano?
It's not actually a uchrony. It's about the process of it. What we called alternative history is now a serious academic discipline which is taught in many universities. They called it counterfactuality. And they run scenarios of alternate historical paradigms from which they make assumptions about the kind of things science fiction writers have been writing about for years. And because in the process they're making it dull.
En fait, la séparation n'est pas une uchronie en soi, c'est sur le processus qui va mener à une uchronie. Ce que nous appelons aujourd'hui les histoires parallèles ou donc l'uchronie, c'est en fait une discipline qui est maintenant enseignée très largement à l'université. Ils appellent ça les histoires contrefactuelles, c'est-à-dire qu'ils partent sur des paradigmes historiques différents, ils les déroulent et voient ce que ça donne en partant d'hypothèses de base différentes. Bien sûr, c'est ce que les auteurs de science-fiction font depuis des années, et l'université, en faisant ça, rend le processus particulièrement assommant.
But that interest that they have interested me, and I began to wonder what it was that science fiction did with uchrony that made it better, not dull. And it seemed to me that what we are concerned with is single acts, that the Spanish Armada did land in Britain, the South did win the American Civil War. Hitler was assassinated in 1944. These are all the kind of key turning points that people have written novels about. And I've often wondered if that was enough. For instance, it seems to me one of the great misconceptions of the modern Western world is that we won World War II, that Britain and France and the USA beat Germany, and that was a victory. I certainly wonder about that quite a lot. I mean, when I was writing The Separation, the two most healthy economies in the world were Japan and Germany. And you kind of think, well, what does a victory mean? What is the nature of a victory? And there was that as a starting point. And then the other thought I had was it's probably not a single act which would make history change. It's almost certainly a sequence of events apparently unrelated which kind of join up to create something much more important. And that was what my novel was about. It's about it describes a period of about 6 months in World War II in which various incidents occur, none of which is at all important, but which collectively create a new history.
En tout cas, l'intérêt que l'université avait concernant l'uchronie et donc ces scénarios contrefactuels, c'est quelque chose qui m'intéressait, ce processus de pensée. Et ça m'a conduit à m'interroger sur ce que faisait la science-fiction exactement concernant l'uchronie. Alors, elle rendait ce processus plus intéressant et pas assommant. En général, quand on pense à l'uchronie, on se préoccupe d'actes uniques, d'actions uniques, comme par exemple l'armada espagnole aurait effectivement débarqué en Grande-Bretagne. Ce serait le Sud qui aurait gagné la guerre de sécession. Hitler aurait été effectivement assassiné en 1944, etc. On imagine tout un tas de points de basculement qui changent le cours de l'histoire. Mais je me suis demandé, est-ce que c'est véritablement assez? Est-ce que ça suffit? Et je pense pour moi que c'est en fait penser comme ça qu'il y a des points pivots, c'est une mauvaise représentation de l'histoire. Par exemple, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on on considère que nous avons gagné, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., ont gagné la guerre. C'est la sagesse commune. Mais j'ai commencé à m'interroger là-dessus, parce qu'en fait, quand on considère la fin de la Seconde Guerre mondiale, les économies les plus solides de l'époque, c'était le Japon et l'Allemagne. Et si on prend ce point de vue, que signifie véritablement la victoire? Et ça m'a posé la question, quelle est la nature de la victoire? Et ça a été le point de départ de ma réflexion, où je me suis dit que ce n'était pas une action unique qui allait faire basculer l'histoire dans un sens ou dans l'autre, mais toute une séquence d'événements qui, en s'additionnant, l'ensemble ferait plus que la somme des parties. Et cela engendrerait quelque chose de plus important. Et c'est ce dont parle le roman, La Séparation, qui se déroule sur environ 6 mois pendant la Seconde Guerre mondiale. On a comme ça des petits événements qui, pris individuellement, n'ont pas l'air si importants, mais viennent s'accumuler et qui, collectivement, vont dessiner une histoire différente.
Ce qui est très intéressant avec l'Uchronie, c'est que l'Uchronie est très nationaliste. En fait, bon, on parlait des Américains, pour eux, la plus belle Uchronie, c'est la guerre de sécession. Pour nous, ça va être Napoléon ou Hitler. Or, en fait, d'autres pays ne sont absolument pas touchés par cette Uchronie. C'est pas parce que Napoléon aurait gagné Waterloo que ça aurait changé quelque chose pour les Chinois ou les Japonais à l'époque. Alors après, effectivement, on peut se demander aussi si l'événement va basculer. Est-ce que si Hitler avait gagné, on n'aurait pas un téléphone portable dans la main? L'évolution technologique peut continuer aussi, même si le point de divergence se fait de plus en plus grand. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir que l'histoire peut-être se recorrige par elle-même derrière.
Juste pour compléter ce qu'a dit Chris, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'on peut écrire des uchronies avec un point de divergence de façon tout à fait classique et tout à fait s'amuser, faire un texte extrêmement, extrêmement réussi et divertissant aussi. Mais c'est vrai que si on se pose vraiment la question de l'histoire, effectivement c'est souvent un ensemble d'événements qui fait que quelque chose peut diverger. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu réducteur de prendre un seul point de divergence, même si c'est un exercice aussi, évidemment, narratif tout à fait amusant. C'est ce que j'avais essayé de faire moi aussi de mon côté, quand je me suis intéressé à la croisade, essayer de montrer que finalement, ce n'était pas un événement donné, une bataille donnée, mais plusieurs, une série d'éléments. Et souvent, les points de divergence ne sont pas que des événements extérieurs, ça peut être aussi des points de divergence d'opinion, simplement. C'est-à-dire qu'une communauté, quelle qu'elle soit, peut à un moment donné basculer dans un regard sur elle-même et sur son histoire qui va être collectivement différent. Et même s'il y a quelques actions ponctuelles de tel ou tel personnage, c'est le groupe qui petit à petit va basculer. Et en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos sociétés. La science-fiction parle des sociétés humaines, c'est peut-être le personnage clé de la science-fiction ou de l'imaginaire, c'est la société et ce qu'elle devient. Et l'Uchronie nous permet de réaliser que quand une majorité de personnes pensent que quelque chose doit aller dans une direction, c'est souvent ce qui se passe. Et à travers les Uchronies, quand on fait le choix de mettre plusieurs éléments plutôt qu'un seul point de divergence, on essaye d'exprimer ça aussi. L'idée que le futur d'une société dépend de beaucoup d'éléments technologiques, religieux, sociologique, philosophique, économique aussi. Hein. Il y a des points de divergence économique dans beaucoup d'Uchronies aussi. Voilà.
Je ne sais pas si à ce moment-là c'est de l'Uchronie ou pas, mais effectivement, pour parler de la Seconde Guerre mondiale et de l'aspect économique, justement, on est en ce moment à une époque où l'économie du Troisième Reich et ses liens avec les grandes économies démocratiques, à commencer par celle des États-Unis, commencent seulement à être analysées et où on commence seulement à mesurer les impacts que les liens entre notamment les États-Unis et l'Allemagne nazie ont pu avoir sur l'évolution du régime d'Hitler. Ces liens-là commencent seulement à être analysés. Et quand je disais tout à l'heure que l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle mérite encore peut-être d'être réécrite, c'est peut-être à travers l'aspect économique que l'histoire du Troisième Reich, elle reste encore à être écrite, en fait. Et avec ses liens, effectivement, avant tout avec l'Amérique et avec Wall Street.
Ceci dit, il y a des points de divergence radicaux. Hein, Lorsque j'ai demandé au tout début pour présenter la collection Uchronie, j'ai fait donc une anthologie où avec, j'ai demandé à des auteurs d'écrire des nouvelles là-dessus. Donc j'ai demandé à mon ami Pierre Pelot, grand auteur vosgien, de me faire une Uchronie. Il m'a dit « Oui, bah, je vais t'en faire une ». Et le lendemain, je recevais un mail et il avait écrit « L'Arche de Noé a coulé, point ».
I think history has a sort of a momentum of its own, and I think an illustration of this is that I don't want to keep talking about World War II, but it's come up several times. It's often occurred to me that if Hitler and the Nazis had, as it were, won the Second World War, there'd be very interesting consequences for our lives now. One of them would be that the Soviet Union would no longer exist and would be replaced by an autocratic capitalist dictator. The USA would be a dominant capitalist power in the world, and people in France would be driving BMWs, Volkswagens, and Audis. So, you know, what else is new?
Je pense souvent que l'histoire, en fait, a sa propre inertie et son propre élan. On a beaucoup parlé de la Seconde Guerre mondiale, et si Hitler et les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, il y aurait tout un tas de conséquences, parfois de détails, dans nos vies, et parfois de grande envergure, mais qui serait intéressant d'observer et auxquels réfléchir. Par exemple, l'Union soviétique n'existerait plus, elle aurait été remplacée probablement par une dictature autocratique capitaliste. Les États-Unis, peut-être, seraient également une puissance capitaliste dominante. En France, vous conduiriez des Volkswagen, des Audi et des BMW.
Non, mais oui.
Non, mais ce qu'il a le mérite de vous dire aussi, c'est que voilà, il faut que ce soit un jeu. Effectivement, c'est sur ça qu'on était parti, et finalement, Jean-Claude avait bien raison, parce qu'il faut d'abord qu'on s'amuse aussi. La science-fiction, l'imaginaire, la fantasy, c'est fait pour s'amuser. Donc on peut réfléchir sur l'histoire, mais il faut jamais oublier, enfin moi je vous le dis de mon point de vue, que la science-fiction n'égalera jamais l'histoire, tout comme l'imaginaire n'égalera jamais non plus les études historiques que l'on peut faire, au sens pas de l'ennui profond, ça c'est sûr que sur ce plan-là, les études historiques et universitaires battront toujours la science-fiction en termes d'ennui, mais en termes de finesse, il faut jouer avec l'histoire comme on joue avec la science. C'était Hugo Gernsback, qui est un des fondateurs de la science-fiction aux États-Unis, qui disait, dans ses récits, en 1920, il disait « The science improves the plot ». Ça veut dire « Le rôle de la science, c'est d'améliorer et de servir l'histoire ». Et dans l'Uchronie, on pourrait dire pareil, « History improves the plot », c'est-à-dire lorsqu'on se sert de l'histoire, il faut que l'histoire nous aide à faire une histoire divertissante, un récit amusant, mais voilà, j'imagine que le château de millions d'années, enfin, on n'est pas non plus là pour ennuyer ou pour donner des leçons, enfin, on n'est pas du tout des donneurs de leçons, c'est pas du tout le but.
C'est ça, c'est l'idée de rendre la matière en permanence vivante, en fait. Les anglo-saxons, ils ont le what if, en fait, le et si, qu'ils appliquent souvent à l'histoire militaire, où on essaie d'analyser une campagne ou une bataille en se demandant et si c'était passé tel ou tel événement, est-ce que ici à Waterloo, Grouchy était arrivé à temps pour secourir Napoléon, etc. Effectivement, le fait de se poser ce type de questions d'un point de vue universitaire et de rendre en fait l'histoire dynamique et pas seulement en fait une accumulation de faits, une accumulation de dates, mais aussi une interrogation intellectuelle et une réflexion et une construction de l'esprit, ça contribue à rendre cette matière, je pense, beaucoup plus accessible à un public plus large, à ne pas le faire chiant et à mourir. Voilà.
Chris, en France, c'est plutôt les historiens qui ont écrit les Uchronies pendant une grande partie du 19e. Aujourd'hui, les historiens en France se moque un peu de cette branche de la science-fiction. En Angleterre, quelle est l'opinion des historiens sur cette spéculation qu'est l'Uchronie ? Don't know.
Don't know.
Je ne sais pas.
We just had lunch.
Non ?
Je ne sais pas, on vient juste de déjeuner.
Non, il y a eu des essais en France récemment. L'Uchronie est maintenant entrée et revenue dans les mœurs. Vous savez que l'Uchronie, le mot Uchronie, était dans le dictionnaire, dans le Larousse de 1880. Hein. C'est un vieux mot, en fait, Uchronie. C'est pas une invention récente de la science-fiction contemporaine. Uchronie, c'était dans le Larousse, dans le grand Larousse illustré de 1880. Et c'était marqué « Jeu sur l'histoire » ou c'était marqué... comme Charles Renouvier l'avait dit dans son récit, utopie appliquée à l'histoire. Ce qui veut tout dire, effectivement, une vision idéalisée de l'histoire, etc. Et aujourd'hui, les historiens s'y intéressent. Ils font des bouquins chiants, c'est vrai, mais ils s'y intéressent. Il y a Dalméda qui a notamment écrit « et si l'histoire était différente », où il liste une trentaine de, ou une vingtaine de points de divergence et il les analyse du point de vue de l'historien. Et puis il y a des grands auteurs français, des académiciens, quelqu'un comme André Mauroy, qui a écrit aussi des uchronies, des nouvelles uchroniques. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui comme étant faisant partie intégrante de, la, de l'imaginaire français, ou en tout cas européen, mais c'est quelque chose qui était là, en fait. Et il jouait avec, sans grand sérieux, vraiment. Hein, c'était vraiment un jeu. Comme tu l'as dit au début, hein, finalement, c'est ça. Il faut que ça reste un jeu.
Oui, mais malgré tout, ce jeu peut intéresser, comme on le disait, des historiens. Est-ce que quoi, c'est pour les historiens, ça peut être une espèce de modélisation historique des événements, c'est ça, pour imaginer l'histoire, la nôtre, à partir d'une histoire parallèle ou différente?
Il y a un point important, et je l'ai subi moi-même, donc je peux vous en parler savamment. Lorsque j'ai sorti la collection, Arte m'a contacté pour faire une émission, tout un tas de petits scénarios uchroniques. Donc on a travaillé longtemps ensemble avec une espèce d'armée mexicaine de Arte, où c'était jamais les mêmes interlocuteurs, il fallait tout reprendre, leur expliquer ce qu'était vraiment l'Uchronie. Enfin bref, tout ça se met en place, et au dernier moment, pour faire quelque chose sur Arte, il faut qu'aussi Arte Allemagne soit d'accord pour lancer la chose. Et là, ça a été un blocage niette, parce que pour eux, l'Uchronie est quand même assez proche du révisionnisme. Donc il y a cette frange-là, pourquoi on fait des uchronies? Est-ce que c'est bien pensant? Est-ce que c'est mal pensant? Est-ce que ça met mal à l'aise certaines populations? Ou certains, la remise en question de certains faits historiques peut être mal perçue pour certains?
Alors, histoire de... Alors, je prends pas ma casquette. Moi, je suis pas historien. Je suis historien du droit. Donc, pour les historiens, je suis un juriste. Et pour les juristes, un historien. Donc, je suis nulle part. Mais c'est comme ça. S'il y en a qui veulent faire histoire du droit, sachez-le, vous serez apatride. Non, pour essayer de libérer une chose qu'on dit à chaque fois, uchronie et révisionnisme sont deux mots totalement antithétiques. C'est très simple. Très simple. Pour faire une uchronie, le point de départ, c'est d'accepter l'histoire comme elle est. Donc c'est l'antirévisionnisme par excellence. Pour écrire une uchronie, il faut d'abord connaître l'histoire comme elle est pour savoir ce qu'on va faire comme uchronie. Donc accuser l'uchronie de révisionnisme, c'est une aberration intellectuelle. C'est pas possible, hein, puisqu'un auteur d'uchronie doit d'abord prendre comme point de départ l'histoire telle qu'elle est. Et ensuite, le fait qu'il imagine l'histoire telle qu'elle pourrait être, telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle sera peut-être, etc., on est dans l'imaginaire. Donc, uchronie et révisionnisme n'ont rien à voir ensemble. Absolument rien. Et quelqu'un qui veut vraiment faire du révisionnisme et dire que tel ou tel événement, tel ou tel massacre, tel ou tel génocide, tel ou telle horreur n'a pas existé, il ne va pas écrire une uchronie du tout. Il va écrire un essai où il va attaquer les sources historiques, etc. Et juste pour terminer le laïus chiant, n'ayez pas une vision idolâtre de l'histoire. L'histoire, ce sont des faits. Les faits sont avérés, ils sont scientifiquement vérifiés, ils sont incontestables, comme dans une démarche scientifique normale. Tout le reste, c'est de l'interprétation. C'est de la lecture. Vous savez, quand Marc Bloch, en 1900, dans les années de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être déporté, exécuté, décrivait le fief et le fonctionnement de la seigneurie au Moyen-Âge, il le faisait en fonction de son environnement, des connaissances qu'il avait à sa disposition à son époque. Aujourd'hui, lorsqu'un historien contemporain comme Jacques Le Goff, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, décrivait le fief, il ne décrit pas le fief, la seigneurie féodale, de la même manière que Marc Bloch. Ayez bien conscience qu'un historien, à part les faits qui sont certains, vérifiés et dans les archives, il construit des modélisations et c'est tout. C'est des constructions intellectuelles, l'histoire. C'est pour ça qu'on parle d'historiographie. Parce qu'on ne regarde pas les sociétés de la même manière en fonction... Il y a, juste pour dire un mot, il y a un très bon historien britannique qui s'appelait Arnold Toynbee. Arnold Toynbee qui a écrit une histoire magistrale, une histoire de l'humanité en plusieurs volumes. Et il disait, l'historien est l'esclave de son époque comme le potier l'est de l'argile. C'est-à-dire que même si un potier est très talentueux, si entre les mains il a une argile trop sèche ou trop humide, il ne va pas faire les mêmes poteries. L'historien, c'est pareil, il est dans son époque, comme l'auteur de science-fiction. Il appartient à une époque, il appartient à un contexte, il voit ce qui se passe dans le monde, etc. Et quelle que soit sa rigueur scientifique, au-delà des faits, il est poussé dans une certaine direction, comme par un vent. Et forcément, eh bien, il fait des interprétations. Et au fond, l'Uchronie, ça n'est juste qu'une forme d'interprétation, simplement, elle est clairement assumée comme une fiction, c'est tout. Donc elle est rafraîchissante de ce point de vue-là.
Dans Le Maître du Haut-Château, Philip Dick imagine donc des États-Unis envahis par les Japonais et met en scène un écrivain qui écrit une fiction où les États-Unis ont gagné la guerre. C'est Le Maître du Haut-Château. C'est évidemment une uchronie mise en abîme. Et chez Christopher Priest, il y a aussi cette mise en abîme du processus uchronique dans La Séparation. D'habitude, il y a un point de divergence et on voit jusqu'où peut aller l'histoire. C'est le cas de la plupart des histoires des histoires uchroniques. Chez Chris, on ne sait pas très bien où on arrive. C'est assez ambigu. Cette ambiguïté est voulue, Chris ?
The Separation, but it's the only one I've written that deals with this subject, so I have to keep coming back to that. I said earlier that I dealt with a number of events which had an effect on history. One of them was that Stefan mentioned, the arrival in Scotland of Rudolf Hess in 1941. That incident itself is a kind of uchronie. There are all sorts of problems with the story as it's happened. There are all sorts of problems with the kind of aircraft he flew and the range it had, whether or not it could even achieve the flight which took place. There are also questions about Hess's ability to fly the thing. There are also questions about his state of mind, that he was widely believed to be insane. So as a novelist taking an interest in history, you suddenly find all sorts of questions arising. What can we actually believe? There are certain events we know, but what is the actual truth about them? So there was that. And then I discovered there was a theory that Rudolf Hess wasn't Rudolf Hess, but an actor imitating him. And that for some reason, this apparently a Swiss citizen was persuaded to fly to Scotland, pretend to be Rudolf Hess, as some sort of scheme by Hitler to distract attention from the fact that he was about to invade the Soviet Union. It gets very complicated.
On revient toujours à La Séparation, mais c'est le seul livre que j'ai vraiment écrit qui est dans le sujet. Je disais tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'événements qui influencent l'histoire, donc toute une séquence qui vient s'accumuler et qui influence l'histoire. L'un de ces événements que Stéphane a évoqué tout à l'heure, c'est l'arrivée de Rudolf Hess en Écosse en 1941. Et cet incident en lui-même est une matière uchronique à part entière, puisque dans l'histoire telle qu'on la connaît, il y a tout un tas d'incohérences et de zones d'ombre et de choses étranges. Par exemple, il y a tout un tas de problèmes qui sont posés par le type d'avion, son rayon d'action, les capacités en même de Hess, est-ce qu'il était vraiment capable de piloter un avion comme ça, l'état d'esprit dans lequel il est arrivé, apparemment il avait l'air complètement fou, etc. Enfin, en tout cas on le considérait comme tel. Bref, il y a tout un tas de problèmes et de questions et d'incohérences. Ça, il y a les faits, et puis après, ce qui m'attire en tant qu'auteur, c'est de me poser les questions et de voir comment on peut interpréter les choses. Donc parce que voilà, on nous présente les événements tels qu'ils sont, et après du coup on se pose la question, on se dit comment est-ce que ça a pu arriver, quelle est la vérité qu'il y a derrière. Et je suis tombé sur une théorie que je trouve intéressante, qui est que la personne qui aurait atterri en Écosse en 41 n'était pas Rudolph Hess, mais en fait un acteur qui était payé pour l'imiter, qui aurait été potentiellement un citoyen suisse, qui aurait été persuadé de piloter un avion jusqu'en Écosse. Tout ça aurait fait partie d'une énorme machination d'Hitler, de manière à distraire la Grande-Bretagne de l'intention allemande d'envoyer l'Union soviétique. Donc quelque chose de vraiment très compliqué.
The realization that Hess might have been an actor reminded me that most of Winston Churchill's major speeches were actually made by an actor, not by Winston Churchill himself. That de Gaulle himself had a double who was sent out to appear whenever he needed to appear. Hitler had several doubles. The last surviving footage of Hitler on film is actually one of the people who imitated him. That Field Marshal Montgomery had a double. Eisenhower had a double. And I began to think at this point that history was completely suspect. That in fact, World War II had probably been fought by actors.
Et quand j'ai justement, je me suis rendu compte donc de cette histoire que S aurait pu être joué par un acteur, ça m'a fait me rappeler que finalement la plupart des grands discours historiques de Churchill ont été lus et présentés par un acteur. De Gaulle également avait un double, un sosie qui apparaissait quand il avait besoin de faire une apparition publique. Hitler avait lui aussi plusieurs sosies. D'ailleurs, parmi les dernières images qu'on a qui survivent de lui, c'est en fait un acteur, c'est pas lui. Field Marshal Montgomery avait un double, etc. Enfin, quasiment tout le monde avait un double comme ça. Parce que là, ça m'a fini par trouver ça extrêmement suspect. Je me suis dit, si ça se trouve, la Deuxième Guerre mondiale a été combattue par des acteurs.
It continues into the present day. Saddam Hussein had 12 doubles, which if you think about it, it's probably the 11 worst jobs in the world.
Et ça continue à l'heure actuelle. Par exemple, Saddam Hussein avait 11 sosies, il avait 11 doubles. Si vous y réfléchissez, c'est probablement les 11 boulots les plus pourris de l'existence.
Simplement pour reparler deux minutes de Hess, c'est pour dire que ce personnage et les zones d'ombre qui s'attachent à son déplacement en Angleterre et donc à Glasgow en particulier, donc en Écosse, et tout ce qui suit ensuite à travers son procès à Nuremberg, puis son incarcération à Spandau à côté de Berlin, créer un certain nombre de zones d'ombre qui m'ont poussé à m'interroger en fait sur ce qui s'était passé réellement, et ça fait partie intégrante de la tétralogie, parce que voilà, à partir du moment où on parle d'une rencontre du troisième type qu'aurait pu avoir des nazis, finalement ce qui est arrivé à Rudolph Hess, ça peut paraître aussi improbable que cette rencontre du troisième type. C'est quelqu'un qui, quand il est arrivé à Glasgow, a été déclaré fou par les services secrets britanniques, mais à Nuremberg en 1945, on s'est posé la question à un moment donné si on allait le juger ou pas, en se demandant s'il était fou, et on a fini par le déclarer saint d'esprit. C'est ces mêmes alliés qui le déclaraient fou la veille. Et ensuite, quand on l'a incarcéré donc en Allemagne, on lui a interdit de parler à sa famille en privé pendant toute la durée de sa détention, et il était en permanence au moment des parloirs assisté par un officier russe et par un officier américain qui surveillait tous les propos qu'il pouvait tenir et lui interdisait de parler de politique, d'histoire et du Troisième Reich. Pourquoi créer autant de barrières si le type est fou? C'est une des questions que cette histoire-là pose, bien évidemment.
Hugo, si on écoute Philippe et Stéphane, on nous cache tout, on nous dit rien. Alors,
c'est là où on tombe sur le point, la théorie du complot. Non, mais sérieux, quoi. L'histoire, elle est invraisemblable, on est d'accord. Quand vous voyez que la moitié des rois de France et d'Angleterre étaient fous. Quand vous avez un roi de France qui adopte un roi d'Angleterre pour pouvoir résoudre une guerre dans un traité, quand vous avez Robespierre qui se tire une balle dans la joue et juste après se fait guillotiner, l'histoire est pleine d'invraisemblances, des invraisemblances pas contrefactuelles, des invraisemblances factuelles, parce que le fait peut être totalement fou et dépasser complètement tout ce qu'on peut imaginer en fiction. Au fond, on est extrêmement prudent, nous, quand on écrit des uchronies, on cherche désespérément à être crédible, mais regardez l'histoire autour de vous, vous avez vu le monde aujourd'hui qui est le nôtre. Si quelqu'un avait écrit une uchronie sur notre monde actuel, l'état aujourd'hui du monde, il y a 15 ans, 20 ans, vous auriez crié au scandale invraisemblable, à l'incohérence. Donc vous êtes fou, quoi, mais comment on peut écrire des choses pareilles? Et pourtant, c'est la réalité. Donc moi, je ne crois pas du tout à la théorie du complot, en fait. Je m'en méfie d'ailleurs comme de la peste. C'est-à-dire que dès que quelque chose a l'air vraisemblable, cohérent, prévisible et programmé, vous pouvez être sûr que c'est des conneries. C'est ou de la science-fiction et de l'uchronie, et là, allez-y à fond et rigolez bien. Mais si ça vous est présenté comme quelque chose qui a une explication rationnelle du monde, fuyez, quoi. Parce que l'histoire vous surprendra toujours. L'événement échappe à toute tentative de contrôle. Et bien souvent, des événements déclencheurs de changements majeurs arrivent complètement sans qu'à aucun moment vous ayez été en mesure de dire ah, attention, là, ça va arriver, quoi. Bien souvent, la réalité dépasse la fiction, c'est un vieil adage, mais c'est vrai. Et nous, auteurs de science-fiction, auteurs d'imaginaire, auteurs d'uchronie, on essaye d'être vraisemblables parce qu'on a peur qu'on de pas être cru, mais en fait, vous êtes beaucoup plus accoutumés à la folie dans le réel.
Merci. S'il te plaît, merci. Alain, est-ce que, en fin de compte, ce jeu littéraire de l'uchronie, qui est donc quelque part un peu inutile, puisque c'est un jeu, bien que les jeux ne soient jamais vraiment inutiles, est-ce que c'est une mélancolie d'une histoire que nous ne connaissons pas? Par exemple, quand vous écrivez « La guerre de 14 n'a pas eu lieu », est-ce que c'est cette uchronie, c'est « Ah, si la guerre de 14 n'avait pas eu lieu ».
Moi aussi, j'ai mangé. Non, je pense... Bon, moi, j'écris pour les jeunes et les adolescents. Donc déjà, le point uchronique, il faut qu'il soit connu d'eux. Hein, si je raconte l'histoire d'un... qui va être vraiment historique, mais vraiment pointu, ça ne va rien leur parler, donc il faut déjà prendre ça. En plus, bon, moi, c'est un travail de commande. Les éditions Flammarion, qui avaient donc arrêté ma collection uchronique en disant « ça ne se vend pas assez », me retéléphone 6 mois après en me disant « dis donc, ça serait bien que tu me fasses un livre uchronique ». Donc là, déjà, ça, c'est très uchronique, ça, c'est très invraisemblable. Et alors, donc, après, comme je me suis aperçu qu'il y avait donc déjà 300 bouquins qui allaient sortir sur le même sujet, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire autre chose. Et bien sûr, donc, prendre le contre-pied de l'histoire. Tout le monde parlait de la guerre de 14. Mais moi, je dis, ben oui, elle n'a pas eu lieu. Et donc, à ce moment-là, une fois que j'ai posé ce postulat, après, il faut que je trouve le point de divergence. Et le point de divergence, c'est donc effectivement l'attentat à Sarajevo. Mais l'attentat de Sarajevo, quand on se penche dessus, on peut dire que ça a été un sacré coup de peau qu'ils ont réussi à tuer Louis Ferdinand, parce que ils étaient toute une équipe qui l'attendait. Les trois premiers, avec un pistolet à la main, l'ont vu passer et n'ont pas osé tirer. Il y en a un peu plus courageux qui a dit, bon, il a balancé une grenade, mais ça rebondit sur le capot de la voiture et ça a pété l'autre voiture juste derrière, donc en faisant de nombreux blessés dans la foule et puis parmi les occupants de notre voiture. Donc après, Louis Ferdinand était très en colère après ça et a abrégé toutes les festivités pour se rendre à l'hôpital pour aller voir les blessés. Et comme le chauffeur ne... Alors, l'équipe, une fois qu'ils ont balancé la grenade, ils ont appris que ça n'avait pas marché, tout ça. Donc, ils sont tous dispersés, sauf le chef qui est resté, qui avait faim, qui a acheté un sandwich quelque part. Et en mangeant son sandwich, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la voiture qui était en train de faire demi-tour parce que le chauffeur ne connaissait pas exactement le chemin de l'hôpital et s'était planté d'une rue. Et donc, il manœuvrait pour essayer de se redégager. Donc là, il a posé le sandwich, il a pris le pistolet. Et il a tué donc l'archiduc et puis son épouse qui venait pour la première fois voir les festivités. Pas de peau pour elle. C'est la dernière festivité qu'elle a vue. Donc voilà, la fragilité aussi de cette histoire et cet angle de l'histoire.
In 1944, there was a plot to kill Hitler. And this was staged by senior army officers in the German army. They failed. Hitler continued and the war went on. People in the West, or on our side, choose to believe was that that would have changed the war. In fact, it would have changed it. They wanted to kill Hitler because he wasn't winning the war, because they felt that they could win the war better than he could, that they could actually beat Russia, that they could hold the West, that they could get the Middle East and get the oil supplies. They saw a very different future from the one that we have. And it's quite interesting to think that the outcome of that failure was has such a radical effect on our present day.
Sorry. No problem. En notre exemple, en 1944, il y a eu un complot pour tuer Hitler qui a été fomenté par des officiers supérieurs de l'armée allemande. Et ils ont échoué et la guerre a continué. Alors en général, donc de notre côté, du côté des alliés, on se dit fréquemment que eh bien, si cet attentat avait réussi, il aurait grandement changé la guerre. On aime à croire ça, mais en fait, oui, ça aurait changé la guerre, mais pas dans le sens qu'on pense. C'est-à-dire que ces officiers militaires voulaient tuer Hitler parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils pourraient gagner la guerre, et ils pensaient qu'ils pourraient la gagner mieux que lui. Et notamment qu'ils pourraient réussir à battre la Russie, à tenir toute l'Europe de l'Ouest et un peu de l'Est, tenir également le Moyen-Orient, etc., pour avoir accès aux ressources. Donc ils voyaient un avenir extrêmement différent de celui que nous voyons. Et c'est assez intimidant de penser aux conséquences que l'échec de cette tentative a eu finalement. Et que cet échec a entraîné des conséquences assez radicales sur notre époque actuelle.
Donc en fait, le point de divergence n'est pas toujours celui qu'on croit.
Oui, et puis le point de divergence, après, ça, faut faire attention aussi quand on est un peu trop précieux. Hein, on veut faire un peu trop le malin. Et alors, on prend un point de divergence tellement fin que personne ne le connaît. Et du coup, le récit n'a aucun intérêt. On emmerde tout le monde. Accessoirement, ça n'est pas... Voilà. Je pense qu'il y a un côté, comme tu l'as dit, l'Arche de Noé. Voilà, il y a ce côté quand même. Le point de divergence évident, c'est parfois mieux pour faire une jolie histoire. Hein. Il vaut mieux prendre un point de divergence évident... Hitler a gagné la guerre, l'Empire napoléonien s'est pas effondré, Rome est redevenue une république, toutes ces choses qui ressemblent à des tartes à la crème en quelque sorte, ça marche très bien pour faire de jolies histoires. Pas besoin d'aller chercher, de faire une espèce de compétition au point de divergence subtil, spécieux, précieux, etc. Voilà. C'est une tendance aussi aujourd'hui, l'Uchronie elle est redevenue très à la mode. Il y a plein d'auteurs qui écrivent des Uchronies, il y a des collections sur l'Uchronie. Il y a plein de récits sur l'Uchronie parce que la science-fiction réinvestit. Elle fait même des Uchronies sur sa propre histoire, bien souvent. On a des textes sur Gernsback, sur, par exemple, sur les auteurs américains, sur et si la science-fiction était restée une littérature dominante en France dans les années 30, etc. On avait une conférence sur Régis Messac tout à l'heure, et si Régis Messac, etc. Donc on fait des Uchronies tout le temps, c'est devenu très à la mode, mais il ne faut pas perdre de vue voilà, qu'on est quand même d'abord là pour s'amuser et pour faire réfléchir. Et il y a une dimension pédagogique hein, très simple de l'Uchronie. Moi, je connais des enseignants qui s'en servent en classe de CM2 ou même au collège. Hein. Il suffit de faire jouer les enfants ou les adolescents avec « imagine une histoire différente ». Mais pour imaginer une histoire différente, il faut quand même connaître l'histoire réelle, sinon le devoir n'est pas possible. Donc voilà, la simplicité n'est pas forcément... au contraire, c'est une bonne conseillère.
Et si tu avais bien travaillé, tu aurais une bonne note. Oui, c'est...
Chris, la séparation, vous l'avez dit, est une unique incursion de l'Uchronie dans tout votre travail, mais il n'est pas unique dans le sens où le livre ressemble beaucoup à beaucoup de vos autres livres, c'est-à-dire que c'est une interrogation sur la mémoire et la réalité. C'est ce que vous avez voulu faire ?
Yes. all my books are a sort of debate with the central science fiction ideas. And over the years, I've sort of tried to re-examine the assumptions we writers make about science fiction. And the separation was a conscious attempt to do that. Sorry, it's very distracting.
Oui, tout à fait. Tous mes livres sont finalement une forme de débat ou de dialogue avec une idée centrale de la science-fiction. Au fil des années, je me suis amusé à réexaminer les partis pris, les hypothèses que nous faisons, nous, auteurs de science-fiction, quand nous en écrivons. Et la séparation est une tentative extrêmement délibérée de faire ce genre de choses.
I got distracted then.
Memory and reality.
Yeah, memory and yes, I forget. we have no history. What we have is a memory. And everyone remembers differently. We remember for very personal reasons what we are doing at the time something happens. An example I often use is if you read a book, and after you finish reading the book, you will remember having read it. You will remember the title, the author, what it was about. You might remember that you enjoyed it or you didn't. You might, if it was a novel, you'd probably remember the story, but perhaps not every twist of the plot. You might remember it really well, but would you remember the 15th word on the 17th line of page 64?
Et c'est un peu une réflexion parallèle que l'on peut conduire avec l'histoire. Nous avons tous une histoire personnelle, ça s'appelle notre mémoire, et nous nous rappelons tous des événements d'une façon différente, pour des raisons qui sont très personnelles et qui nous poussent, pour des raisons différentes, à faire ce que nous faisons. Et nous gardons tous un tracé différent des événements qui se sont déroulés. Un exemple qu'on j'utilise assez fréquemment et qui est évident, c'est le fait de lire un livre. Mettons que vous avez lu, vous mettez à lire un livre et puis vous le finissez. Quand vous l'avez fini, vous vous rappelez que vous l'avez lu, vous vous rappelez du titre, vous vous rappelez de l'auteur, vous vous rappelez éventuellement peut-être du thème, vous vous rappelez si ça vous a plu ou au contraire si ça vous a pas plu. Si c'est un roman, vous pouvez par exemple vous rappeler de l'histoire, vous pouvez vous en rappeler très bien, mais vous n'allez pas vous rappeler chaque coup de théâtre en grand détail. Et même si vous vous rappelez extrêmement bien du livre, vous vous rappellerez pas du quatrième mot de la 17e ligne de la page 64.
The point of this is that memory is clearly selective, that we don't remember everything, and that therefore there is some kind of sorting or prioritizing in the human mind as to what we remember and why. And that's what interests me. What we people often choose to remember things differently from the way they actually happened for various reasons. It shows them up badly, or they were embarrassed, or they made a big mistake. Other people will remember things for the opposite reason. They felt they did well and they succeeded in something. Other people will have a larger memory, which is based on a kind of consensus view. For instance, the way my parents, who went through the Second World War, remembered it is quite different from what is known to have happened in the histories. So what interests me as a writer is what is the nature of memory and how do we best understand it? And I'm still working on it.
Ce que je veux dire, c'est que la mémoire est sélective. C'est-à-dire que il y a des choses dont nous nous rappelons et d'autres que nous oublions. Et la façon dont nous faisons ce tri et dont nous installons des priorités dans nos souvenirs m'intéresse beaucoup. Pourquoi nous rappelons-nous de certaines choses? Pourquoi oublions-nous d'autres? Et pourquoi parfois nous nous en rappelons différemment de ce qui s'est véritablement déroulé. Par exemple, parfois on va se rappeler différemment d'un événement parce que cet événement nous a présenté sous un mauvais jour, ou alors on a fait une erreur, ou alors on s'est senti gêné. Ou à l'inverse, on peut voir le processus inverse, par exemple, on va s'en rappeler différemment parce que ça nous présente sous un meilleur jour ou parce que ça nous donne l'impression d'avoir réussi quelque chose. Et puis il y a également parfois la présence d'une mémoire plus vaste, c'est-à-dire une mémoire qu'on pourrait dire consensuelle. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont mes parents se rappellent la Seconde Guerre mondiale, les souvenirs qu'ils ont est assez différente de la façon dont l'histoire nous présente que ça s'est déroulé. Parce qu'il y a une espèce de mémoire consensuelle des gens qui ont vécu à cette époque. Et donc la nature de la mémoire et la façon dont elle fonctionne m'intéresse énormément et je continue à travailler dessus.
Eh bien, oui.
Ouais, non, mais oui, tu vois, par exemple, parmi les gens qui sont là, donc tous vont avoir une uchronie de cette table ronde sur l'uchronie. C'est-à-dire, certains se rappelleront y avoir assisté, peut-être. Probablement beaucoup d'autres, non. Certains se diront que c'était une table ronde sur l'uchronie, d'autres sur les théories du complot. Chacun aura son interprétation. Et pourtant, il y a un fait, c'est qu'elle a eu lieu ici.
Voilà, merci Hugo d'avoir résumé ce fait. Merci à Chris, Stéphane, Alain et Hugo. Merci à vous pour votre attention et bonne continuation de l'après-midi.